Le journal d'une femme, chapitre 14. 1er août. Cette journée comptera dans ma vie. Comme il y a moins d'entrain au château depuis quelque temps, on n'avait arrangé aucune promenade pour aujourd'hui. Chacun est resté chez soi ou dans le salon. Après avoir griffonné les lignes qui précèdent, j'ai eu l'idée de retourner dans cette allée mélancolique où j'avais rencontré Madame de Louvercy, et d'y reprendre la rêverie qu'elle avait interrompue. J'allais y entrer, quand j'ai entendu derrière moi un bruit de pas rapide. Je me suis retournée et j'ai reconnu Monsieur Desblis. « Pardon, mademoiselle, » m'a-t-il dit avec son plus grand air de gravité. « Voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder quelques minutes d'entretien ?» Sur ces paroles, mon cœur s'est arrêté net. Et quand il a recommencé à battre, la secousse a été si violente que j'ai cru sentir mon être se dissoudre. J'avais compris que le moment était venu et que le mot de ma destinée allait être prononcé. « Monsieur, ai-je répondu en dissimulant de mon mieux, mais fort mal, je le crains, mon émotion. « Je vous écoute. » Il était très ému lui-même. Il a marché d'abord en silence à mes côtés, puis il a repris. « Mademoiselle, mon indiscrétion va vous sembler grande. Elle vous prouvera du moins la profonde et respectueuse confiance que vous m'inspirez, puisque je veux faire dépendre de vous le bonheur ou le malheur de mon existence. Mieux que personne au monde, mademoiselle, vous êtes en situation de bien connaître mademoiselle Cécile de Stael. Vous êtes amie d'enfance. Vous avez été compagne au couvent, n'est-il pas vrai ?
Oui, monsieur.
Vous avez pu étudier et juger à fond son caractère, son esprit. Avant de lui offrir ma main, de lui consacrer ma vie, puis-je vous demander ce que vous pensez d'elle ?
Tout le bien possible.
Vous sentez, n'est-ce pas, mademoiselle, qu'il n'y a rien de banal dans mes questions ? Je vous en conjure qu'il n'y ait rien de banal dans vos réponses. Mademoiselle de Stael est une jeune fille fort attrayante, cela se voit assez, pleine de grâce et de distinction, brillante et spirituelle, je sais tout cela. Mais son caractère est un peu bizarre. Il m'étonne, il m'effraie même un peu, je vous l'avoue. Eh bien, je vous le demande, à vous qui avez dû en pénétrer tous les mystères. Que peut-on en espérer ou en redouter ? Cécile, monsieur, n'a jamais connu sa mère. Elle a été élevée par son père, dont elle est l'enfant unique et qui l'a un peu et même beaucoup gâtée. Voilà l'explication des inégalités d'humeur, des bizarreries, des caprices qui ont pu vous frapper. Mais son naturel est excellent. Elle est la plus tendre, la plus sûre et la plus dévouée des amies. Elle sera la plus tendre, la plus sûre et la plus dévouée des femmes. À une condition pourtant, c'est qu'elle sera bien guidée et qu'elle aimera son guide. « Je vous demande pardon mille fois, » a-t-il repris, « mais croyez-vous qu'il puisse aimer un homme d'un caractère aussi différent du sien que je puis l'être, par exemple ? Un homme dont le sérieux presque sévère forme un si fort contraste avec sa légèreté, au moins apparente. Vous ne répondez pas ? C'est que je cherche mes mots, mais non ma pensée, car ma pensée n'hésite pas. Je crois donc, monsieur, que s'il y a un homme précisément qui puisse attacher Cécile, la réformer dans ses petits défauts, développer encore ses grandes qualités, en faire enfin une femme honnête, fidèle et heureuse, c'est vous. » Il s'est incliné profondément. Puis, après une pause, « Enfin, vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas ?»«
Beaucoup. » »«
C'est un grand éloge. Je vous remercie, mademoiselle. Je la reçois avec une absolue confiance de votre main. » Nous nous étions rapprochés du château. Il en a repris le chemin, après m'avoir encore remercié et salué du geste et du regard. Pour moi, dès qu'il a été loin de ma vue, je me suis assise sur un des bancs de l'allée. car après m'être soutenu pendant cet entretien par un effort de courage et de fierté, je sentais la terre se dérober sous moi. Tout était dit. Dès cet instant, ma pauvre vie était manquée. Mon cœur de 20 ans portait une blessure qui ne se fermera pas. Mais comment comprendre de la part d'un homme d'honneur, d'un homme de goût, une démarche semblable? Par quelle inspiration secrète, par quel raffinement barbare a-t-elle pu lui être dictée? Il m'est impossible de le concevoir. A-t-il eu quelque conscience du supplice horrible qu'il m'infligeait? Je ne sais. Cela s'est passé ainsi, voilà tout. Dès ses premières paroles, dès le premier coup reçu, je n'ai plus eu qu'une seule préoccupation. C'était de sauver à ses yeux ma dignité de femme, et aussi de dominer le mouvement de basse jalousie qui eût pu me pousser à calomnier Cécile. Peut-être cette préoccupation a-t-elle été excessive, et m'a-t-elle entraînée dans l'éloge au-delà même de ma pensée et de la vérité. Mais l'excès dans ce sens valait mieux que dans l'autre. Cependant, je n'étais pas au bout de mes épreuves de la journée. Dès que j'ai pu me tenir sur mes pieds, je me suis remise en marche pour essayer de calmer mon agitation. J'allais devant moi, sans savoir où. Je traversais une des principales avenues du parc, quand un bruit de roue m'a fait retourner. C'était M. Roger de Louvercy dans son panier. Il était seul, car malgré les supplications de sa mère, il refuse le plus souvent d'emmener son domestique, suivant sa manie de repousser tout secours étranger, à moins de nécessité absolue. Il allait bon train à sa mode ordinaire. En m'apercevant, il a ralenti avec difficulté le pas de son cheval, qui était fort vif. Puis, l'arrêtant tout en l'air à 2 pas de moi, « Vous ne voulez pas vous promener, mademoiselle ?» m'a-t-il dit avec son sourire toujours un peu amer et ironique. « Non, je vous remercie bien. » « Est-ce mon cheval qui vous fait peur, ou moi ?»« Ni l'un ni l'autre. » « Eh bien, en ce cas, accordez-moi le plaisir de votre compagnie. »« Il me semble, ai-je dit, que cela ne serait pas très convenable. »« Oh, convenable !» a-t-il répondu en secouant la tête. « Hélas, avec moi, tout est convenable. D'ailleurs, nous ne sortirons pas de nos bois. Allons, vous ne voulez pas ? Je vous fais horreur, décidément. » J'ai vu redoubler la pâleur et la tristesse habituelles de son visage. J'ai été prise d'un sentiment de pitié. Et puis, en ce moment, toute espèce de diversion était la bienvenue. Enfin, j'avais la tête à demi égarée, et tout m'était égal. « S'il ne s'agit, ai-je dit, que d'une promenade dans le parc, je veux bien. » Je suis alors montée dans le panier, non sans m'y reprendre à 2 fois, car le cheval, un pur sang d'un noir de jais, s'agitait beaucoup, et Monsieur de Louvercy avait grand-peine à le maintenir de sa main unique. Nous sommes aussitôt partis d'une allure très rapide. Au bout de quelques pas, « Vous avez manqué votre vocation, mademoiselle !» m'a dit en riant Monsieur de Louvercy. « Comment cela ? Vous étiez née pour être sœur de charité. Il y en avait une dans l'hôpital d'Orléans pendant que j'y étais, qui vous ressemblait un peu. Cela m'a saisi la première fois que je vous ai vue. Moins belle, pourtant. Est-ce que vous êtes d'origine créole ? Non, je suis parisienne. » « Et elle vous a bien soignée, cette sœur ?»« Trop bien » m'a-t-il répondu avec un sourire. « Pourquoi trop bien ? À quoi bon me conserver une vie qui ne pouvait plus être qu'un fardeau pour moi-même et pour les autres ?»« Voulez-vous me permettre de vous dire, monsieur, que vous me semblez un peu injuste envers la Providence ? Elle vous a cruellement frappé, sans doute. » Mais n'êtes-vous pas trop insensible aux consolations qu'elle vous a laissées et qui font défaut à tant d'autres malheureux ? Quelles consolations, mademoiselle, je vous prie ? Mais votre mère, d'abord, son incomparable tendresse, puis aussi les soins d'une amitié si dévouée et si rare, enfin l'étude, le loisir de vous y livrer, les joies qu'elle donne, la considération qu'elle promet.
Oui, a-t-il répliqué amèrement. Tout cela peut empêcher qu'on ne devienne fou. Mais c'est tout. Et encore, il y a des moments où je crois l'être. Où je le suis.
Il a gardé le silence pendant quelques secondes, secouant les guides comme par distraction et tourmentant la bouche de son cheval, qui n'avait pas besoin d'être excité. Il n'a pas paru s'apercevoir d'abord que la bête s'impatientait et gagnait à la main. Et il a repris. « Vous avez vu Déblis ce matin ?»«
Oui, il me quittait quand vous m'avez rencontré. » »«
Ah, quel brave homme, n'est-ce pas ?» Je répondais « Oui » d'un simple signe de tête. Il m'a regardé. « Vous êtes bien pâle, mademoiselle. Je l'avais déjà remarqué. Est-ce que vous êtes souffrante ?»«
Non. »
Il a eu sur les lèvres un méchant sourire. Et comme s'il l'eût fait exprès, il a de nouveau secoué les guides sur les reins du cheval, qui s'est décidément affolé. Nous étions emportés. Le cheval, dans sa course furieuse et désordonnée, a failli nous briser contre les barres de l'avenue, a tourné violemment sur sa droite et s'est lancé à toute vitesse sur un chemin public qui aboutit, je ne l'ignorais pas, à un lavoir ménagé sur le bord de la rivière, très escarpé en cet endroit. Monsieur de Louvercy essayait de calmer son cheval de la main et de la voix, mais il n'y réussissait pas. Nous courions toujours comme le vent, les arbres défilaient comme des visions. J'éprouvais une sorte de vertige. Nous touchions à l'extrémité du chemin et nous apercevions déjà les miroitements du soleil dans l'eau. Monsieur de Louvercy s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Charlotte, m'a-t-il dit froidement, avec ce regard farouche qu'il a dans ses mauvaises heures. « Tenez-vous beaucoup à la vie ?»«
En vérité, non, je n'y tenais pas beaucoup. » Un simple mouvement de mes sourcils lui a dit.
« C'est égal, a-t-il repris. Ce serait dommage. » Je ne sais s'il a, pour dompter son cheval, un secret qu'il n'avait pas voulu employer jusque-là, mais presque aussitôt, sur quelques paroles accompagnées de légers mouvements de main, cette bête s'est apaisée. Elle s'est mise à une allure raisonnable et nous avons pu, avant d'avoir atteint la rivière, nous engager dans l'embranchement d'un autre chemin. Monsieur de Louvercy, dont j'avais malgré tout admiré le sang-froid, car nous avions certainement couru danger de mort, m'a dit alors tranquillement « Que je ne tienne pas à la vie, moi, cela se comprend trop. Mais vous, c'est un mystère. »«
C'est un mystère, » ai-je répété en souriant.
« Chagrin d'amour ? » a-t-il repris d'un ton d'ironie sombre. Et après une pause, « Si belle et dédaignée, ce serait étrange. »«
Monsieur, lui ai-je dit très vivement, « votre malheur vous donne de grands privilèges. Il ne vous donne pourtant pas, je suppose, celui d'offenser une femme. »«
Ne vous ai-je pas dit que j'étais fou ?»«
Je le vois, monsieur, mais il fallait me prévenir. »
Il s'est tu longtemps. Il mordait ses lèvres avec tant de force que j'en ai vu jaillir une goutte de sang. Enfin, il a repris d'une voix très émue, « Mademoiselle, je suis indigne de l'honneur que vous m'avez fait, je le reconnais, et je vous prie humblement de me pardonner. »
C'est bien, monsieur. Si nous retournions ?
Nous étions alors assez loin dans la campagne, car j'apercevais à travers les arbres la petite église de Louvercy. Retournons, a-t-il dit tristement.
Mais mon Dieu, rentrerons-nous fâchés, ennemis ?
« Voyons, mademoiselle, y a-t-il quelque chose au monde qu'un pauvre misérable comme moi puisse faire pour vous prouver son profond respect et pour effacer le souvenir d'une parole odieuse ?» Une idée soudaine m'est venue. je me suis rappelé ce que madame de Louvercy m'avait dit, le matin, de la douleur que lui causait l'espèce d'impiété révoltée de son fils. Je voyais la petite église tout près de nous.
« Oui, lui ai-je dit tout à coup, vous pouvez faire une chose qui vous rendra mon estime et qui vous vaudra même mon amitié. Voilà l'église là-bas. Venez y prier avec moi. »
Ses sourcils se sont subitement contractés. Et d'une voix assez douce pourtant, « Ma mère vous a parlé ?»«
Oui. »«
Vous le voulez ?»«
Oui. » »«
Allons. » Peu de minutes après, nous arrivions sous le jardin du presbytère qui est contigu à l'église. Le domestique du curé, qui travaillait dans le jardin, a levé la tête au bruit. Monsieur de Louvercy l'a appelé et l'a prié de tenir son cheval. Je suis descendu et je l'ai aidé lui-même à descendre. Puis nous sommes entrés dans le cimetière et nous avons franchi le porche ogival, à la vive surprise du domestique, qui n'a pas coutume de voir M. Roger dans ces parages. L'intérieur de l'église est fort simple, une petite nef blanche et nue. Je précédais M. de Louvercy, dont la béquille résonnait sur les dalles et sous la voûte. Nous avons gagné entre deux rangs de chaises la place réservée à Mme de Louvercy. Je lui ai indiqué une chaise basse couverte d'un coussin, et je lui ai dit à demi-voix « Le prie-Dieu de votre mère !» Puis je l'ai soutenu par le bras pendant qu'il s'y agenouillait. Il se laissait faire comme un enfant. Il s'est accoudé la tête dans sa main et je me suis agenouillée à côté de lui. Pendant que je priais pour nous deux de toute mon âme, son cœur a éclaté et je l'ai entendu pleurer à sanglots. Quand nous nous sommes relevés, me montrant son visage inondé de larmes, « Voyez, m'a-t-il dit, ce que vous faites faire à un soldat. » « Aussi, vous êtes pardonné, lui ai-je répondu en lui tendant la main. Nous sommes repartis aussitôt, toujours d'un grand train, mais sans folie. Son émotion calmée, il est devenu presque gai et s'est mis à interpeller les paysans que nous rencontrions çà et là sur la route, s'informant de leurs affaires et me contant leur histoire avec intérêt. Je savais déjà, au reste, que sa misanthropie ne l'empêchait pas de faire beaucoup de bien dans le pays où il est aimé. Nous venions d'entrer dans le parc quand nous avons aperçu au détour d'une allée trois personnes marchant lentement devant nous. C'était Madame de Louvercy, Monsieur Desblis et Cécile. Ils ont paru fort surpris de me voir en compagnie de M. Roger. « Ma mère » s'est-il écrié en riant. « J'ai cru enlever Mademoiselle Desrats et c'est elle qui m'a enlevée. Et savez-vous où elle m'a conduit ?»« Non, vous ne vous en doutez pas. Allons, je veux lui laisser le plaisir de vous l'apprendre. » J'ai sauté à terre. J'ai pris à part Madame de Louvercy, qui semblait de plus en plus intriguée, et je lui ai dit à l'oreille « Je l'ai mené à l'église. Il a prié. » Elle a poussé un cri, et me serrant sur son cœur avec une sorte de violence, « Ah, ma chère, chère enfant !» Et après une pause et un long soupir, « J'ai donc tous les bonheurs à la fois, car, vous savez, Cécile... » Et elle me l'a montré près de Monsieur Desblis. « Oui, je sais, ai-je dit. Qui aurait jamais pensé qu'elle fît un choix aussi sage, et que lui, de son côté... Enfin, Dieu a ses jours. » Cécile, cependant, m'avait pris le bras, et elle a dit à sa tante d'un ton suppliant « Laissez-moi seule avec elle. » Madame de Louvercy et Monsieur Desblis se sont alors éloignés doucement en causant avec Monsieur Roger, qui avait mis son cheval au pas. Cécile m'a entraînée et m'a fait entrer avec elle, en suivant un court sentier tournant, dans une partie très retirée du parc qu'on nomme l'ermitage. La tradition du pays veut qu'il y ait eu autrefois en ce lieu une habitation d'ermite, dont on croit retrouver les traces dans quelques débris de maçonnerie
à demi recouvert aujourd'hui par un tertre gazonné. La seule ruine à peu près intacte est un très petit et très vieil édifice en forme d'arche cintrée, sous l'abri duquel jaillit dans une étroite citerne la source du ruisseau qui traverse le bois. Il y a là un terrain assez vaste qui paraît avoir été le jardin de l'habitation détruite et qui forme aujourd'hui une clairière aplanie, une sorte de promenoir dans lequel on a conservé çà et là des groupes d'arbres de hautes futaies. C'est un site d'un aspect singulièrement doux et sauvage, une espèce de vallon sacré, de solitude gracieuse, qui fait rêver à ces coins de paysage où l'on place, auprès de quelques fontaines antiques, des scènes de nymphes et de bergers. Cécile m'y a conduite en silence, puis, me regardant avec une tendresse inquiète et en me sautant au cou tout en larmes, « Ah !» s'est-elle écriée, « Je te le vole ! Je te le vole !» J'ai mêlé mes larmes aux siennes, en lui rendant ses caresses et en murmurant « Quelle folie ! À quoi vas-tu penser ? Ne gâte donc pas ton bonheur à plaisir !»« Tu as été si bonne pour moi » a-t-elle poursuivi en pleurant. « Si généreuse ! Il me l'a dit. Ah, oh, c'était toi seule qui étais digne de lui, toi seule ! Tu ne l'aimais pas trop ? Dis ! Mais non, ma chérie, sois donc tranquille, de la sympathie seulement. » Moi, je l'adore. Écoute, c'est ici, dans cet endroit charmant, qu'il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il m'a demandé si je voulais être sa femme. C'est ici que je voudrais être enterrée quand je mourrai. Crois-tu que ce soit possible? Je ne sais pas, ma mignonne, mais tu dis des choses absurdes, tu sais. C'est que je suis un peu folle, vraiment. Mais sera-t-il heureux avec moi? Le crois-tu? Je voudrais tant qu'il fût heureux. Il sera heureux, ma chérie. Enfin, rien ne m'a été épargné. J'abrège ce récit, car le cœur me manque. Que vais-je faire maintenant? Je verrai demain. Je consulterai ma grand-mère. Je suis décidée à tout lui dire. Chapitre 15. 2 août. Ma grand-mère a appris hier soir, comme tout le château, le grand événement des fiançailles de Cécile. Quoique certainement contrariée et même indignée au suprême degré, elle a reçu la nouvelle avec un calme, une sérénité, un sourire qui m'ont été d'un bon exemple. Elle m'a simplement dit, en me quittant sur l'escalier, « Il a un drôle de goût, ce monsieur. » Ce matin, elle m'a prévenue et elle est entrée chez moi, comme je m'éveillais d'un bien court sommeil. Après m'avoir embrassée en me serrant fortement la main, « Ma belle mignonne, » m'a-t-elle dit, « mesdames de Sauve et de Chagre viennent de m'annoncer qu'elles partent aujourd'hui avec leurs frères. Eh bien, je te déclare que je trouve leur conduite ridicule. C'est avouer son désappointement, son dépit. C'est mesquin, c'est misérable. Nous sommes plus fiers que cela, n'est-ce pas, chère petite ?» « Oui, grand-mère, nous savons souffrir dignement, nous autres, et quoi que ce soit fort ennuyeux, nous resterons encore ici 15 jours ou 3 semaines pour sauver l'honneur. Du moins, c'est mon avis. T'en sens-tu le courage ?»« Je tâcherai. D'ailleurs, ma chère petite, la fuite, en pareil cas, n'est pas plus raisonnable qu'elle n'est honorable. Il vaut mieux s'habituer aux choses, les regarder en face. » En user l'impression. Tu ne penses pas? Je ne sais pas encore. Enfin, tu verras. Si cela dépasse tes forces, nous partirons. Je te demande pardon, mon enfant, si je brusque un peu ton chagrin. Au lieu de m'attendrir avec toi. C'est plus sage, vois-tu. Il ne faut jamais caresser sa douleur. Embrasse-moi. Je t'aime bien. Et elle s'est sauvée chez elle pour s'attendrir toute seule, je crois. Quant au résultat de mes méditations de la nuit, le voici. J'ai si souvent entendu dans le monde tourner en risée les amours éternels
et traité de fabuleuse la constance du cœur, surtout chez mon sexe, que j'éprouve un peu de scrupule à me croire sous ce rapport une exception. Il m'est cependant impossible d'imaginer que mon cœur, à moi, s'ouvre jamais, même dans le plus lointain avenir, à un sentiment qui en chasse celui que j'y avais admis. À tort ou à raison, je suis persuadée que j'aimerai toujours l'homme que j'ai aimé une fois de toute ma passion, de toute ma raison, de toute la puissance de mon être et de ma vie. Il ne m'est pas même possible d'imaginer qu'avec un tel sentiment dans le cœur, je puisse jamais m'unir à un autre. À moins donc qu'il ne se produise en moi un changement bien grand que je n'attends pas et que je ne souhaite pas, je ne me marierai jamais. Tant que ma grand-mère me restera, je vivrai près d'elle et pour elle. Si je lui survis, je rentrerai dans le couvent où j'ai passé ma jeunesse et je n'en sortirai plus. Je sens que je n'y serai pas trop malheureuse. J'y porterai sans doute d'amers regrets, mais j'y trouverai des consolations. À part même la poésie du cloître et la familiarité si douce des choses divines, j'y trouverai dans mes humbles fonctions d'institutrice l'illusion du dévouement maternel, puisque je n'en dois connaître que l'illusion. Ce que j'ai fait autrefois pour Cécile, je le ferai pour d'autres, et ce sera ma famille. Ceci réglé pour l'avenir, je me conformerai pour le présent aux intentions de ma grand-mère. Sa fierté est d'accord avec la mienne. Je rougirai de manifester par un brusque départ un dépit humiliant. Je souffrirai beaucoup, sans doute, mais j'ai épuisé, je crois, dans la journée d'hier, tout ce qu'on peut souffrir en ce genre. Chapitre 16. 8 août. Ma grand-mère a eu aujourd'hui, avec Madame de Louvercy, une longue conférence dont je ne puis absolument deviner le sujet, et qui paraît avoir eu pour résultat de modifier nos projets. Au lieu de partir dans 15 jours, nous partons demain. Elle vient de m'en prévenir en alléguant que nous avions assez fait pour notre dignité. Elle avait le front très soucieux, et Madame de Louvercy, quand je l'ai vue sortir de la chambre de ma grand-mère, avait le visage décomposé. Il ne s'est cependant rien passé de blessant entre elles. Leur attitude mutuelle le prouve. Elle est affectueuse et même tendre, quoique empreinte d'une tristesse particulière. Je renonce à pénétrer ce nouveau mystère, qui me préoccupe assez peu. L'important pour moi, c'est que nous nous en allions. J'avais, je l'avoue, trop présumé de mon courage. Il était à bout. Le départ des Valnès et de leurs sœurs me laissait le plus souvent seul en présence des deux fiancés. J'étais le témoin souriant de leur tête-à-tête, de leurs amours, de leur bonheur. Le témoin souriant et désespéré. La jalousie est une douleur d'une complication affreuse. Elle ne déchire pas seulement le cœur, elle le dégrade. On ne se sent pas seulement torturé, on se sent avili. La blessure n'est pas franche, elle n'est pas saine. L'orgueil ulcéré, l'envie, la haine s'y mêlent, l'envenime et la souille. Il n'y a pas une âme passionnée, je suppose, qui ne soit, à quelque heure maudite, capable de ces indignes sentiments. Le mérite n'est pas d'en être capable, mais de les détester et de les vaincre. C'est ce que j'essayais de faire, avec l'aide de Dieu. Mais je suis heureuse de partir. J'ai promis à Cécile de revenir pour son mariage, si elle se mariait ici. Mais je pense que la cérémonie doit avoir lieu à Paris, et je préfère beaucoup cela. Monsieur de Louvercy n'a pas assisté ce matin à notre déjeuner. Il ne viendra pas dîner ce soir. Il est, paraît-il, assez sérieusement souffrant. Je remarquais en effet, depuis quelques jours, qu'il avait l'air plus languissant et plus maladif que de coutume. Je regrette de partir sans l'avoir revu. Je ne le reverrai probablement jamais, car il ne quitte pas Louvercy, et j'espère bien n'y jamais revenir. Pauvre garçon, je lui saurai toujours gré de ce qu'il a fait pour moi. Chapitre 17, 9 août. Quelle nuit! La surveillance de nos emballages m'avait tenu sur pied jusqu'à 1 heure du matin. J'avais depuis un moment renvoyé ma femme de chambre et je commençais à me défaire quand j'y crus entendre une porte s'ouvrir discrètement sur le palier en face de la mienne, puis un léger bruit de pas, des craquements de boiseries et des froissements d'étoffes sur les marches. Quelqu'un descendait l'escalier avec mystère. Surprise et agitée par je ne sais quelle crainte vague, j'ai entrouvert doucement ma porte, et j'ai vu une faible lueur au bas de l'escalier. En même temps, un murmure de paroles entrecoupées, et à ce qu'il m'a semblé, de gémissements étouffés montaient jusqu'à moi. Je me suis penchée sur la rampe, et j'ai pu reconnaître Madame de Louvercy, arrêtée sur le palier du rez-de-chaussée, un bougeoir à la main. Elle avait le front appuyé contre la porte de l'appartement de son fils et prêtait l'oreille attentivement. Tout à coup, elle a ouvert cette porte avec une extrême précaution et s'est glissée dans l'appartement. J'étais là, inquiète et haletante, depuis 2 ou 3 minutes, quand un cri de femme, un cri aigu, douloureux, s'est fait entendre dans le grand silence de la nuit. Je me suis précipitée, j'ai descendu l'escalier follement et je me suis trouvée devant la porte que Madame de Louvercy avait laissée entr'ouverte. Elle donne dans une sorte de cabinet de travail qui précède la chambre de Monsieur Roger. Ce cabinet était plongé dans les ténèbres, mais quelques rayons de lumière y pénétraient à travers la portière qui le sépare de la chambre voisine. Je prêtai l'oreille à mon tour avec angoisse, et mon cœur battait à coups pressés dans ma poitrine. Madame de Louvercy était entrée dans la chambre, elle sanglotait, et sa voix s'élevait par intervalles avec des accents de supplication désespérée. Aucune voix ne lui répondait. J'ai été prise d'une terreur mortelle. J'ai cru que quelque malheur était arrivé. J'ai fait, presque sans y penser, quelques pas dans le cabinet, et j'ai soulevé sans bruit un coin de la portière. En face de moi, j'ai vu Monsieur Roger de Louvercy assis dans un fauteuil près d'une table. Il avait l'immobilité et la pâleur d'un spectre, et il regardait d'un œil fixe, sans parler, sa malheureuse mère qui était prosternée devant lui, les mains jointes et battant de son front les genoux de son fils. J'ai pu voir aussi sur la table une grande lettre cachetée de cire, et tout auprès, une de ces boîtes, oblongues, en palissandre, où l'on enferme les pistolets de prix. Enfin, Monsieur Roger a murmuré sourdement d'un ton irrité « Jean aurait mieux fait de se taire !» Jean est son ancien soldat, qui est aujourd'hui son domestique de confiance. « Oh, je t'en prie !» a répondu Madame de Louvercy à travers ses sanglots. « Et moi, ne suis-je donc rien? Rien pour toi, mon Dieu !» Il a encore hésité, puis je l'ai vu se courber, prendre le front de sa mère et le baiser. « Pardon, a-t-il dit, cette heure de folie est passée. Bien passée, je vous le promets. » « Tu me le promets? Tu me le promets vraiment, mon enfant chéri ?» « Je vous le promets. Seulement, qu'elle parte, je vous en supplie, que je ne la revoie pas, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, c'est convenu, tu sais, elle part demain, ce matin même. »« Et qu'elle ignore tout cela ?»« Toujours, oui. »« Eh bien, allez, ma mère, et reposez en paix. »« Pardon encore. Allez en paix, vous avez ma parole. »« Je vous le jure, je vous le jure. » « Emportez ses armes, si vous voulez. » Pendant qu'il se tenait embrassé, je suis sortie à la hâte. J'ai gravi l'escalier et je suis rentrée chez moi. J'y ai passé le reste de la nuit dans d'étranges réflexions. Dès que le jour apparut, je suis allée chez ma grand-mère
et j'ai eu avec elle un long entretien. Elle a pu m'apprendre alors pour quelle raison Madame de Louvercy l'avait priée d'avancer notre départ. Mais c'était inutile. Depuis un moment, je le savais. Je vais dormir un peu, et puis je reprendrai. Chapitre 18. Même jour. La résolution que j'ai prise cette nuit a été très longtemps et très vivement combattue par ma grand-mère. « Ma chérie, m'a-t-elle dit, tu sais qu'en principe, je ne hais pas le romanesque, mais ceci l'est vraiment trop. À ton âge, avec ta figure, ta tournure, ton éducation, ta fortune, épouser un invalide, certainement c'est très beau, très généreux, très poétique. » Mais franchement, cela dépasse un peu la mesure. Et encore, permets, ma chère enfant, si tu prenais une détermination semblable en temps ordinaire, en toute liberté d'esprit et de cœur, avec calme et sang-froid, en pleine possession de toi-même, enfin, à la bonne heure. Mais ce n'est pas cela. Tu viens d'éprouver un désenchantement, une déception très sensible. Mon Dieu, par parenthèse, je ne comprendrai jamais ce qui a pu se passer dans la cervelle de ce monsieur-là. Quoi qu'il en soit, ma charmante, tu es dans un de ces états de l'âme où s'engendrent les fausses vocations. Il faut donc te défier beaucoup d'un premier mouvement d'enthousiasme, qui peut n'être qu'un mouvement de désespoir. Au moins attendons, attendons quelques mois, laissons le temps passer sur cette idée-là. Si elle se confirme, si elle se consolide, eh bien on verra. Mais je ne ferais vraiment pas mon devoir si je te permettais de t'engager dans une pareille aventure sous le coup de ton chagrin de cœur, sous le coup aussi de l'émotion que t'a causée la scène tragique de cette nuit. Telles ont été, en bref résumé, les objections de ma grand-mère. Je les ai combattues à mon tour de toute ma conviction et de toute mon éloquence. Sans doute j'étais un peu romanesque, mais elle-même n'avait-elle pas encouragé en moi ces dispositions? Ne me les avait-elle pas recommandées comme des garanties de dignité et même de bonheur? Sans doute j'avais le cœur malade et brisé. Mais ce cœur malade n'avait-il pas précisément besoin pour se relever et se soutenir, de la diversion d'un grand devoir, d'un généreux dévouement? Ne devait-il pas trouver uniquement dans le bonheur des autres la consolation et l'oubli de son propre bonheur perdu? Je ne lui ai pas caché l'intention formelle où j'étais d'entrer un jour au couvent, si jamais j'avais le malheur de me trouver seule au monde. Dévouement pour dévouement, celui dont l'occasion se présentait à moi n'avait-il pas un caractère plus élevé, plus pieux, plus attachant, moins égoïste enfin que le simple renoncement au monde et l'abnégation un peu banale de l'institutrice? Quant à attendre, ce serait hasarder peut-être tout le mérite et tout le bienfait de mon action. Qui sait si dans l'intervalle, ce malheureux jeune homme ne retomberait pas dans un de ces accès de désespoir auxquels je venais de le voir en proie? Si sa mère serait comme cette fois avertie à temps, s'il n'y succomberait pas? Ce qu'il y avait de certain, du moins, c'est qu'attendre serait me faire perdre à moi la meilleure partie de ma récompense, la joie que je me promettais de voir ces pauvres gens passer soudain de l'excès de la douleur à un bonheur inespéré, d'en être la cause, de descendre tout à coup dans leur vie sombre comme un ange de lumière, que cette seule minute de mon existence jetterait sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, un apaisement, un charme et une consolation infinie. Ma chère grand-mère, tout en pleurant beaucoup, a bien voulu se rendre à mes raisons. « Hélas, ma pauvre fillette, » a-t-elle murmuré pour conclure, « le monde dira que nous sommes deux folles. » « Ce sont, ai-je dit, des folies que Dieu doit bénir. » « J'en conviens, » a dit ma grand-mère, « mais il y a maintenant une autre difficulté qui me saute aux yeux. Ah, mon Dieu, laquelle ? Comment allons-nous nous y prendre avec les louverties ? Je dois rendre justice à la pauvre mère. En me confiant la malheureuse passion de son fils, elle n'a pas paru admettre un instant la supposition, vraiment inimaginable d'ailleurs, d'un mariage entre vous deux. Le jeune homme, très évidemment, ne l'admet pas davantage, et ça fait honneur à son bon sens. Mais alors, quoi ? Il va donc falloir souffrir, se jeter dans leurs bras, sans dire gare. C'est impossible, ma fille. C'est tout à fait incorrect. Mais grand-mère, puisque nous sommes sûrs qu'ils ne me refuseront pas. Ah bon, il ne manquerait plus que cela. Enfin, c'est une négociation très délicate, très délicate. Voulez-vous m'en charger, grand-mère ? Ah, mon Dieu, pourquoi pas ? Quand on prend du galon, on n'en saurait trop prendre. Puisque nous sommes dans les irrégularités jusqu'au cou, une de plus, une de moins, c'est indifférent. Mais enfin, pourtant, j'imagine que tu vas d'abord t'adresser à la mère. Bien entendu, ai-je dit. C'est pourquoi je viens de faire demander un moment d'entretien à madame de Louvercy, et dans quelques minutes, je serai chez elle. Chapitre 19. Même jour. Madame de Louvercy était chez son fils quand on lui a transmis mon message. Elle est aussitôt montée chez moi. Son visage, un des plus nobles que je connaisse, était encore tout pâle et comme meurtri des terribles émotions de la nuit. Elle m'a souri pourtant, mais d'un air distrait, comme une femme dont la pensée était à mille lieues de la surprise que je lui préparais. « Ma chère enfant, m'a-t-elle dit, vous voulez me faire vos adieux ? Vous êtes aimable. Je suis bien aise moi-même de vous faire les miens sans témoin pour mieux vous dire combien je vous regretterai, combien je vous remercie d'avoir été si obligeante, si compatissante pour nous tous. » Elle m'avait pris les mains en parlant. Elle a vu que j'étais extrêmement troublée et a senti que je tremblais. Ses traits défaits se sont comme tendus tout à coup, et ses yeux ont cherché les miens avec une expression d'étonnement et de vagues soupçons. « Madame, ai-je dit en balbutiant un peu, j'ai un pardon à vous demander. J'ai été bien indiscrète la nuit dernière. » Elle m'a regardée avec une fixité plus intense et plus profonde. « Je vous ai entendu passer, puis j'ai entendu vos pleurs. J'ai craint que vous n'eussiez besoin de secours. Je suis descendue. »« Vous savez tout ? » s'est-elle écriée toute tremblante à son tour. « Je sais tout, oui. Je suis profondément touchée des sentiments que j'ai inspirés à votre fils, très touchée aussi de son infortune. Enfin, madame... » Et je me suis rapprochée d'elle tout doucement. « Voulez-vous que je sois votre fille ?» Tout son corps a frémi d'une secousse soudaine. Ses yeux dilatés, stupéfaits, presque égarés, demeuraient attachés sur les miens. Ses lèvres entrouvertes étaient agitées de faibles convulsions. Elle a murmuré tout bas, « Non, ce n'est pas possible. Voulez-vous de moi pour votre fille ? » ai-je repris en lui souriant. « Ah ! Quel cri elle a jeté ! Quel cri de mère, d'heureuse mère ! Je ne sais plus trop ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi. J'avais à demi perdu le sens, elle aussi. Elle me serrait, m'embrassait, m'étouffait, m'appelait des noms les plus tendres, priant, pleurant, nous mêlant, Dieu et moi, dans ses élans de reconnaissance. Ah, quel bon moment ! Dès qu'elle a pu se retrouver, se reconnaître un peu, « Mais mon Dieu, et votre grand-mère » a-t-elle demandé avec anxiété. Elle consent. « Ah, allons chez elle !» Elle m'a entraînée chez ma grand-mère. Après les premiers transports, qui ont été très vifs de part et d'autre, ma grand-mère a fait observer qu'avant de nous y abandonner davantage, il serait peut-être bon de sonder les intentions de M. Roger.
« Ah, Dieu !» s'est écriée Madame de Louvercy.
« Mon pauvre garçon, tout ce que je demande, c'est qu'il ne meure pas de joie. Mais je ne veux pas lui faire attendre plus longtemps, ce bonheur-là. »
Et se voyant tout à coup dans la glace, avec ses beaux cheveux blancs tout dénoués et en désordre,
« Comme je suis faite, il va me croire folle !»
Elle a un peu lissé ses cheveux et s'est dirigée vers la porte du pas leste et délibéré d'une jeune fille. En réalité, l'éclat de ses yeux, l'épanouissement de son visage, semblait l'avoir subitement rajeuni de 10 ans. Près de sortir, elle s'est arrêtée et, se retournant,
« Il ne me croira pas »
a-t-elle dit. « Véritablement, il ne me croira pas. » Et elle me regardait timidement. J'avoue que je mourais d'envie de l'accompagner. Ma grand-mère, emportée par l'enthousiasme du moment, m'a poussée par les épaules.
« Oh, mon Dieu, vas-y, ma chère, puisque nous nageons en pleine incorrection, vas-y !»
Madame de Louvercy a passé mon bras sous le sien et m'a emmenée presque en courant. Pendant que nous descendions l'escalier,
« Quel contraste avec cette horrible nuit »
m'a-t-elle dit en m'embrassant encore. Elle a ouvert la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. Elle m'a prié tout bas d'attendre 1 minute dans le cabinet de travail. Puis elle a levé la portière et elle est entrée dans la chambre de M. Roger. À peine seule dans ce cabinet, j'ai été saisie brusquement par l'étrangeté et, pour dire le mot, par l'inconvenance, au moins apparente, de ma situation. J'avais beau me rappeler tout ce qui pouvait justifier ma démarche, tout ce qu'il y avait d'exceptionnel dans les circonstances qui me l'avaient conseillé, dans l'état malheureux de M. Roger et dans la réserve qu'il lui imposait, j'avais beau me dire que par la force des choses, les rôles ordinaires se trouvaient en quelque sorte renversés entre nous deux, je n'en étais pas moins là, à sa porte, attendant son bon plaisir comme une esclave d'Orient. Et, n'étant pas d'humeur très humble, cela me semblait tout au moins fort désagréable. Ce sentiment de malaise s'accusait plus péniblement à mesure que ma solitude se prolongeait et qu'on me laissait le temps de la réflexion, sur lequel je n'avais pas compté. Mon imagination m'avait représenté cette scène comme devant être une répétition exacte, vive et rapide de celle qui m'avait tant émue un instant auparavant. Un étonnement, un cri, un élan, un transport. Mais au lieu de cela, les minutes succédaient aux minutes. J'entendais à travers l'épaisseur de la portière des chuchotements à demi-voix, des échanges de confidences, un dialogue raisonneur, une sorte de discussion en règle. Le sang me quittait le cœur, et le parquet flottait sous moi quand la portière s'est enfin soulevée, me montrant le visage de Madame de Louvercy, non pas triste précisément, mais sérieux et un peu inquiet. « Voulez-vous venir, mon enfant ? » m'a-t-elle dit doucement. Je suis entrée dans la chambre. Monsieur de Louvercy était debout, appuyant son genou blessé sur une chaise. Ses traits, dont l'expression habituelle est tourmentée et sarcastique, avaient absolument perdu ce caractère. Une sorte de mélancolie grave et presque solennelle en rehaussait fièrement les lignes pures. Ses yeux, cerclés de sillons bleus, m'ont paru un peu humides. Il a attaché son regard sur moi, et m'a dit en parlant très lentement, comme pour contenir une émotion près d'éclater. « Ma mère, mademoiselle Charlotte, m'a fait connaître le sentiment de bonté angélique qui vous amène ici. Si je n'étais pas infirme comme je le suis, je serais à vos pieds. Je n'accepte pas cependant votre sacrifice, mais il suffit que la pensée vous en soit venue pour que ma vie en demeure consolée et charmée, pour que ma reconnaissance la plus profonde, la plus tendre, vous suive partout et vous bénisse à jamais. Maintenant, mademoiselle, je vous en supplie, ne prolongez pas une épreuve qui dépasserait vraiment la force d'un homme. Laissez-moi ferme dans la résolution que l'honneur me commande. Vous m'en estimerez mieux. Encore merci et adieu. » Il s'est incliné très bas en me saluant. Sa mère pleurait en silence. Je me suis avancée de quelques pas vers lui et je lui ai franchement tendu ma main. Il l'a prise et l'a pressée avec force. « Mon Dieu » a-t-il dit tout bas. Puis, me regardant longuement, « Excusez-moi, mademoiselle, je ne trouve pas de parole. J'ai le cœur si plein, l'esprit si troublé. Je passe si brusquement de l'abîme au ciel. Mais du moins, laissez-moi vous prouver combien j'étais sincère tout à l'heure. Combien je crains vraiment d'abuser d'un mouvement de générosité, d'un élan d'enthousiasme. Veuillez, je vous en prie, prendre quelque temps pour réfléchir. Dans quelques mois, dans un an par exemple, si vous persistez, si vous n'êtes pas plus effrayé qu'aujourd'hui de votre grand dévouement, eh bien oui, j'accepterai. Mais jusque-là, souffrez que je vous dégage de toute obligation, que je vous rende votre absolue liberté. » Comme il avait gardé ma main, je n'ai pas eu besoin de la lui donner pour sceller notre convention, dont Madame de Louvercy a paru très satisfaite, espérant peut-être, et peut-être avec raison, qu'elle aurait le sort de beaucoup d'autres traités modernes. Pour moi, j'ai répondu simplement « Comme vous voudrez, monsieur, mais je ne changerai pas. Au revoir. À tantôt, car vous n'exigez plus que nous partions aujourd'hui, je suppose. Vous nous accorderez bien un sursis de quelques jours. » Il a secoué la tête en souriant et il a baisé ma main. Nous nous sommes alors retirés, sa mère et moi. Ma grand-mère, en apprenant le résultat de cette conférence, a déclaré que la conduite de monsieur de Louvercy lui paraissait parfaitement correcte et honorable. Je pense de même. Et après avoir été si fort choquée et mortifiée du peu d'empressement qu'il mettait à m'accueillir et à me répondre, je regretterais beaucoup maintenant qu'il eût agi autrement. Je lui sais gré de ses hésitations et de ses scrupules, bien que j'y sente, à la réflexion, quelque chose de plus que ce qu'il m'a dit. Oui, sans doute, il craint d'abuser d'un mouvement d'enthousiasme romanesque qui pourrait être sujet au repentir. Mais il craint aussi d'accepter le don d'un cœur blessé, qui n'est peut-être pas encore et qui ne sera peut-être jamais guéri de sa blessure. Car il est certain qu'il a soupçonné tout au moins mon attachement pour M. Desblis. Il ne pouvait se permettre de me demander une explication à cet égard. Mais, si délicate qu'elle puisse être, je la lui donnerai un jour ou l'autre. Et comme il est honnête homme, il sera content de moi. Oui, c'est un cœur blessé, un cœur saignant que je lui offre, mais un cœur pourtant dévoué et fidèle. Chapitre 20, 25 août. J'ai été bien inspirée. Je ne veux pas pourtant me mentir à moi-même. Je ne suis pas heureuse. Je ne peux pas l'être. J'ai entrevu un bonheur trop grand, trop parfait, pour que je me console jamais de l'avoir perdu. Mais enfin, l'obsession de cette pensée unique a cessé. Ma vie a retrouvé un but et un avenir. Je me suis fait un devoir qui en remplit le vide, qui m'occupe et qui m'attache. C'est une tâche attrayante que de relever peu à peu une âme désolée, de la tirer du désespoir, de lui rendre la paix et le sourire, de la ramener à la soumission, au bonheur, à Dieu. Voilà les soins auxquels je me consacre, avec un intérêt tendre qui croîtra sans doute chaque jour comme l'affection d'une mère pour son enfant malade et qui ne laissera rien regretter, je l'espère, à celui qui en est l'objet. Dès à présent, il voit, il comprend tout ce que je lui donne.
et avec quelle sincérité. Je lui en dis quelque chose. Il devine le reste et il paraît heureux. Comme je m'en étais douté, notre convention ne tient guère. Il insiste, il est vrai, pour que j'en observe les délais. Je ne résiste pas, mais je reste, et il ne s'en plaint pas. Je crois que nous nous marierons dans quelques semaines. Il a donc fallu confier ce grand secret à Cécile et à son fiancé. Je n'ai rien appris, je crois, monsieur Desblis. Il m'a dit simplement « Cela est digne de vous ». Quant à Cécile, après quelques secondes de complète stupeur, elle est entrée dans une sorte de convulsion joyeuse et tendre qui dure encore. Nous serons cousines, à demi-sœurs. C'était son rêve. Et puis, elle se figure que ce mariage va resserrer encore notre intimité, que nos deux existences vont pour ainsi dire se confondre. À cet égard, elle se trompe. Elle restera la plus chère de mes amies. Mais il est probable que nous vivrons, pendant quelque temps du moins, plus séparés que par le passé. Le découragement avait empêché jusqu'à présent M. de Louvercy de céder au conseil des médecins, qui lui recommande le séjour du Midi et du bord de la mer. Maintenant il veut vivre. J'ai déjà parlé d'un établissement à Nice pour l'hiver, et j'ai vu qu'il m'en savait gré, pour plus d'une raison peut-être. Je ferme ici mon livre à serrure, pour ne le rouvrir jamais, j'espère. Je pense qu'une fois mariée, une femme ne doit plus avoir d'autre confident que son mari. Adieu donc, romanesque et passionnée Charlotte.